Kick 95.7 Saguenay. Le show du matin. Le show du matin.
7h53 de la neige sur les routes. Évidemment, ce matin, partout, il y a de la poudrerie dans certains secteurs. Visibilité partiellement réduite. C'est partiellement neigé aussi. Donc, le partiel est pas mal à la mode. Soyez prudents. C'est très, très important. Il y a un véhicule qui a perdu une roue. Je vous y reviendrai tantôt, là, mais ça cause des problèmes de circulation. Il y a eu quelques sorties de route également ce matin. Rien de majeur. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que... Ben, sincèrement, c'est pas le temps qu'il y ait des accidents graves puis que vous vous retrouviez à l'hôpital. Pas parce qu'ils sont pas capables de vous soigner, ils vont être capables de le faire, mais ils sont un petit peu dans le jus. Donc, si on peut éviter d'en ajouter une couche, je pense que ce sera la bienvenue. Par ailleurs, par rapport à ça, justement, les problèmes qu'on vit dans l'hôpital, là, ça a été confirmé ce matin. On a transféré un premier patient atteint de la COVID-19 vers Québec. On est complètement débordé dans les centres hospitaliers de la région, avec le CIUSSS, évidemment, puis avec la COVID-19. Et les médecins ont décidé d'écrire une lettre ouverte. Puis ils nous ont envoyé ça hier soir, pour diffusion. Parce que là, on dit, écoutez, là, c'est le temps que je pense que la population prenne conscience de la gravité de la situation. Nous, on le voit pas là, dans la vie de tous les jours, ce qui se passe dans les quatre murs de l'hôpital. Mais ceux qui sont sur le terrain vous disent... Ça va pas bien actuellement. On va parler avec le docteur Hugo Villeneuve, qui vit la situation à tous les jours depuis un certain temps. Il est en ligne. Docteur Villeneuve, bon matin.
Oui, bon matin à vous.
Jusqu'à quel point c'est terrible ce qui se passe dans l'hôpital?
Bien, en fait, la situation, comme on le disait la semaine dernière, est vraiment critique. On ne peut pas vous le cacher, c'est le message qu'on veut passer. La situation est grave et on a très hâte de s'en sortir.
C'est grave dans quel sens? Parce qu'évidemment, les gens disent « Ouais, mais moi, je paye tant d'impôts, puis comment se fait-il qu'on n'est pas capable d'absorber le nombre de cas supplémentaires que ça peut occasionner? » Pour nous qui ne travaillons pas dans le milieu hospitalier, là, qu'est-ce qui peut causer autant de problèmes?
Ben, en fait, il y a deux problèmes principaux. Il y a le manque de personnel. Hein. Vous savez, le système de la santé était déjà en manque de personnel, difficulté de recrutement, même avant la pandémie. À l'heure actuelle, on se retrouve avec un manque qui est encore plus important. Donc, des gens qui sont retirés parce qu'ils ont été testés positifs ou des contacts, ou des membres du personnel qui sont immunosupprimés, enceintes, ou pour toutes sortes de raisons, sont retirés. Donc, les ressources humaines sont alors plus bas. Et le deuxième facteur, c'est nécessairement l'augmentation des hospitalisations, que ce soit dans des lits réguliers d'hospitalisation ou aux soins intensifs. Donc ça met une pression énorme parce que ce sont des gens qui sont extrêmement malades et évidemment, ça prend du personnel dédié et on est déjà dans un manque, dans un contexte de manque de personnel significatif. Donc ces deux facteurs-là mettent une pression énorme sur le système et actuellement, dans ce contexte-là, on est obligé de délester, donc de mettre sur pause d'autres services si on veut avoir la capacité de traiter les patients atteints de COVID qui augmentent sans cesse là, depuis déjà quelques jours.
Justement, où est-ce qu'on en est dans cette histoire de délestage? Je lisais un excellent article du Devoir ce matin qui parlait des paramédics à Montréal lors de la première vague qui ne faisaient plus de manœuvres de réanimation chez certains patients. Là. Est-ce qu'on en est déjà rendu là ici au Saguenay?
Non, actuellement, moi, je n'ai pas entendu parler de telle chose. Actuellement, donc, comme on le dit, on est capable de traiter les patients de manière exceptionnelle, dans le sens où si vous vous présentez avec une maladie X à l'urgence actuellement, vous allez avoir accès aux meilleurs soins, évidemment, possible. Sauf que ce qu'on sait, c'est que il peut y avoir un ralentissement dans la prise en charge de maladies qui sont, par exemple, un petit peu moins graves. Il peut y avoir un retard, par exemple, pour un examen diagnostique. Donc, on est plus dans ce genre de choses-là. On n'est pas encore rendu à dire, à choisir qui sera réanimé et qui ne le sera pas. Évidemment, on ne souhaite pas y arriver. Je pense pas qu'on va arriver à cette situation-là. Et c'est pourquoi on lance un appel à la population de nous aider. Parce que, évidemment, cette pression-là sur le système de santé vient du nombre grandissant de cas dans la population. Et c'est dans ce sens-là qu'on voulait lancer finalement cet appel mobilisateur pour donner un petit peu d'oxygène à notre système.
Mais c'est ce que les gens ont de la difficulté à comprendre. Puis même moi, des fois, il faut que je me le fasse réexpliquer. À quel point une trentaine de lits, on parle de 30 personnes, peut causer autant de bordel. Tu sais, quand on regarde le nombre de lits pour les 8 millions de Québécois, on se dit, c'est juste ça. tabarouette, il n'y a donc bien pas de capacité de soins intensifs. C'est-tu parce que, dans le fond, on n'est pas supposé en avoir tant que ça? Ou...
Bien, en fait, actuellement, ce matin, justement, j'ai parlé avec, la direction, savoir où, un petit peu où est-ce qu'on en était. On s'enligne plus hein, vers un 50-55 lits actuellement. Là, cette semaine, ça va ressembler à ça, de COVID positif dans nos établissements à travers la région. Donc, c'est quand même une pression supplémentaire. Faut savoir que les lits de soins intensifs nécessitent un personnel dédié. Donc, c'est beaucoup de monde, ça prend beaucoup de bras. En fait, la présidente du syndicat en a parlé en fin de semaine, les gens sont épuisés. Il y a un manque significatif de personnel. C'est des gens qui sont nécessairement très formés pour aller travailler auprès de ces patients très malades-là. Donc, oui, effectivement, ça peut sembler être un nombre relativement faible, mais malgré tout, ça nécessite des ressources en nombre très important. Donc, moi, je peux vous confirmer que quelques lits supplémentaires, hein, parce qu'on peut dire quelques, là, mais une cinquantaine de lits supplémentaires avec des patients très malades de COVID, ça prend des ressources, surtout dans le contexte où les ressources sont manquantes, là, effectivement.
Vous avez abordé le point dans votre conférence de presse la semaine dernière, mais jusqu'à quel point les gens, vous avez l'impression que vos patients font attention ou non avec les mesures sanitaires, là, t'sais, pour qu'on décide de lancer un message pour dire aux gens, regardez, là, prenez ça au sérieux, là.
En fait, moi, je reconnais là, que la population fait déjà des efforts important, sinon surhumain, hein, parce qu'on s'entend que c'est un travail de tous les jours de respecter les mesures de la santé publique. Et personnellement, moi-même, mon comportement n'est pas irréprochable non plus. Et je pense que l'ensemble de la population fait déjà des très, très grands efforts. Puis on reconnaît que c'est extrêmement difficile, surtout à l'approche du temps des fêtes, surtout là dans ce contexte d'automne où le soleil se couche tôt. C'est difficile du point de vue psychologique aussi là de respecter ces mesures de la santé publique là. Donc nous, on reconnaît vraiment là qu'il y a un effort déjà surhumain qui est fait. Mais ce qu'on voulait lancer comme message avec notre lettre, c'est de dire que le système de santé actuellement est vraiment sous pression. Et la seule chose sur laquelle on peut jouer, la chose qu'on peut contrôler à l'heure actuelle en tant que citoyen, c'est de donner un coup de barre supplémentaire, de donner un effort supplémentaire pour vraiment là abaisser les cas dans la région et donner un petit peu d'oxygène à notre système de santé. T'sais, moi-même, comme je le disais tantôt, je suis vraiment pas parfait, mais le but c'est de prendre conscience de nos actes, puis qu'à chaque jour, on se pose la question, est-ce qu'on est capable de diminuer un petit peu nos contacts? Est-ce qu'on est capable de respecter davantage la distanciation? Est-ce que le masque, on le porte de façon adéquate? Fait que ça, c'est toutes ces choses-là, c'est ce message-là qu'on veut lancer, mais on reconnaît vraiment que c'est pas facile, que c'est un travail de tous les jours, puis vraiment, on encourage la population, puis notre message est vraiment mobilisateur, beaucoup plus que, on veut pas accuser personne là, de ne pas respecter les choses, on veut dire, let's go, on est capable, puis on veut tous s'en sortir rapidement. Donc, en parlant aux différents médias, entre autres à vos auditeurs, on sait qu'on rejoint une grande portion de la population. C'est là qu'on veut aller. On veut mobiliser les gens pour que notre région, on puisse s'en sortir rapidement parce que nous, de notre côté, on a hâte de recommencer à traiter les gens de façon avec les meilleurs standards de pratique, de traiter les gens dans des contextes médicaux ultra spécialisés. Puis on veut le recommencer selon notre vitesse de croisière qu'on avait avant la pandémie.
Ouais. Peut-être juste en terminant, le point le plus décourageant, je pense, pour les gens, c'est de dire, ben, regardez ce qui se passe dans les hôpitaux. Ils sont habillés comme des astronautes puis ils réussissent à l'attraper pareil. Alors, comment moi, avec mon simple masque, je peux réussir à pas le pogner? Ben, l'équation est simple, sortez juste pas.
Oui, absolument. Bien, c'est sûr que les contextes de soins, c'est différent. Hein? C'est par exemple des infirmiers qui travaillent dans une unité COVID vont être exposés à des inoculums de virus beaucoup plus importants que la population en général. Là. Si vous allez à l'épicerie, par exemple, là, c'est pas 100% des gens qui sont contaminés autour de vous puis qui vont excréter du virus. Le but avec les mesures de la santé publique, c'est vraiment de se protéger. Si par exemple vous entrez en relation avec quelqu'un qui pourrait être positif sans le savoir, hein, parce qu'on sait qu'il y a des asymptomatiques qui sont présents dans la population actuellement. Il y a un haut taux de porteurs dans la population. Donc, c'est vraiment juste des mesures qui nous permettent de diminuer les risques de contamination et de finalement abaisser les taux de contamination de la population.
En gros, aidez-nous à vous aider. Docteur Villeneuve, merci beaucoup.
En plein ça. Puis merci de me donner l'opportunité de lancer ce message mobilisateur à la population. C'est surtout ça qu'on veut lancer comme message.
Merci. Bonne journée, bonne chance pour la suite.
Merci à vous. Merci. Bonne journée.
Docteur Hugo Villeneuve, qui est médecin, donc spécialiste à l'hôpital de Chicoutimi, qui tenait à faire la sortie. Évidemment, cette sortie-là, cette lettre ouverte-là a été envoyée à tous les médias. Quand c'est rendu que les médecins sortent, c'est rare qu'ils sortent les médecins, mais quand c'est rendu qu'ils sortent, c'est parce que dans les murs d'hôpital, ils vivent de quoi, là?
C'est intéressant ce qu'il t'a répondu sur pourquoi à l'hôpital plus qu'ailleurs.
Oui, oh, oui.
Parce qu'on l'oublie, on oublie, on se fait tellement bombarder d'un paquet de trucs, d'un paquet de données qu'à un moment donné, on finit par en oublier, là. Mais c'est vrai que même si tu étais bien en astronaute, t'es avec 100% de patients COVID qui te crachent dans la face, là.
Ah, il y a du virus partout. Ouais, à l'épicerie, c'est pas le cas, là.
C'est ça, c'est sûr que c'est pas mal moins dangereux à l'épicerie. N'empêche que.
N'empêche.
Mais as-tu lu Le Devoir ce matin, ce à quoi je faisais référence? Je viens tout juste de parler avec les gens des ambulanciers ici dans la région. Ils n'ont pas encore ce protocole-là. Mais lors de la première vague, il s'est peut-être passé un peu sous le tapis. Ça a été mis en œuvre le 4 avril, la directive ministérielle Arrêt de manœuvre intensifié. Okay. Qui prévoit notamment de ne plus faire de massage cardiaque ni de défibrillation chez les personnes en asystolie. C'est-à-dire qu'ils ne présentent pas de pouls décelables. Ça veut dire que si ça fait une, deux, trois minutes que tu n'as plus de pouls, l'arrêt ministériel faisait en sorte que tu arrêtais.
Ah oui?
C'était terminé. Pour ne pas surcharger les soins intensifs des hôpitaux de Montréal.
Fait qu'ils ne te réaniment pas quand tu es mort, même s'ils peuvent te réanimer.
Il disait que dans les conditions qu'il donnait aux ambulanciers, il y avait de 1 à 2 % de chances de succès. Là.
OK.
Mais ils ne prenaient pas de chance.
OK.
Parce que les lits étaient complets.
Tu sais, c'est pour des affaires de même qu'on dit « faites attention ».
C'est sorti dans Le Devoir ce matin. Là.
Ouais.
Et on le savait pas. Mais en Italie, ils sont allés plus loin que ça. Là, ça, c'est pas pire, c'est 1-2 %.
Ils ont débranché du monde qui pensait pas être en mesure de sauver pour brancher quelqu'un qui pensait être en mesure de sauver.
Allez voir dans l'émission Midi Pile sur le site du 95.7 Kick. Ils ont fait une entrevue sur ce fameux protocole.
Mm-hmm.
Comment est-ce qu'on fait pour choisir? Qui ont choisi? Il existe, ce protocole-là.
Oh, il s'est pensé. Dans le pire des cas, si on déborde,
ils fermeront pas l'hôpital, là.
Mais non.
Tu n'arriveras pas un matin puis la porte est barrée, là.
Le plan de contingence va très, 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 très loin.
Mais ils n'ont pas le choix.
Ils ont pensé à tout.
Ils n'ont vraiment pas le choix. Tu veux-tu te rendre là?
C'est pas rassurant. Quand tu lis ça, on est
loin de ça.
Oui.
Mais c'est juste vous dire qu'ils peuvent pas ne pas se préparer. T'sais, ils fermeront pas l'hôpital. Tu n'arriveras pas un matin out of business.
Non, absolument.
Ça marche pas de même.
Je vous rappelle quand même la bonne nouvelle, là, avant que tout le monde regarde la neige puis se dise bon, on en a pour longtemps. Il y a un troisième vaccin ce matin qui a démontré son efficacité. C'est celui d'Oxford, AstraZeneca. 70 % en moyenne d'efficacité. Il faut dire que c'est un vaccin standard. Ce n'est pas un vaccin de haute technologie comme les deux premiers. Donc, l'efficacité est également relativement bonne. Parce que c'est une efficacité de vaccin standard. C'est même beaucoup plus efficace que le vaccin contre la grippe, soit dit en passant. Là. Mais on rentre dans les taux à peu près là, du vaccin contre la coqueluche et autres. Donc, 70 %, c'est bien intéressant. 3 milliards de doses en 2022 et il n'a pas besoin d'être transporté à moins 70. C'est un vaccin ordinaire avec des morceaux de virus. Là.
Ah, ils l'ont manqué en passant. J'écoutais tout le monde en parle. Hier, il y avait une épidémiologiste. Puis j'ai écouté aussi Lina Machouf, là, qui est la femme d'Amir Kadir, qui est aussi épidémiologiste dans différentes émissions. Puis ils ont manqué une belle occasion lorsqu'ils ont présenté le congé des fêtes de nous expliquer pourquoi 4 jours. Hein.
Ouais.
Ils ont vraiment manqué une belle occasion de nous l'expliquer. Puis de la façon dont ils l'ont expliqué hier, je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire que, mettons que tu es infecté, là, mm-hmm. mais tu es asymptomatique. Là. Avant que tu deviennes contagieux, là, ça peut prendre 3 jours. Donc, si tu es allé à ton premier party le 24, puis tu es allé le 25, puis le 26, ça se peut que tu aies contaminé personne comme ça se peut que tu aies contaminé juste une personne.
Exact.
C'était intéressant de la façon dont ils l'expliquaient. Pourquoi 4 jours?
Mais s'il y a quelqu'un qui est déjà probablement asymptomatique, mais contagieux à son premier party, ils vont en contaminer pareil du monde. C'est là où
c'est
ça
sûr.
Devient un peu un petit peu bizarre. Le congé des fêtes, en tout cas, j'ai hâte de voir le retour en janvier, mais tu sais qu'à Santé publique, ils s'attendent à être débordés de cas au retour en janvier. 8h06.
Le show du matin. Pour nous joindre via messagerie texte et téléphone, 543-51-31. Kick 95-7, Saguenay.